RFI, il est 17h à Paris, 15h en temps universel.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal, le Proche-Orient, l'armée israélienne a intensifié ses frappes en Syrie et au Liban voisin, mais aussi dans la bande de Gaza. Israël qui a lancé une nouvelle offensive au sol, notamment à Gazaville. La défense civile parle d'au moins 30 morts. On fera le point sur ce que l'on sait dès le début de cette édition. Donald Trump et les droits de douane affolent les pays et les marchés du monde entier. Et aux États-Unis, on s'intéressera aussi au patron de la NSA, limogé par le président américain hier pour des raisons encore floues. Donald Trump qui fait aussi parler de lui en France avec son soutien à Marine Le Pen suite à sa condamnation et son inéligibilité hier dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Le Rassemblement national semble discret sur le sujet. Et puis un sommet, Union européenne et Asie centrale organisé aujourd'hui en Ouzbékistan. Bruxelles tente de se poser en alternative à la Chine et à la Russie. Dans la bande de Gaza, de nouvelles opérations israéliennes sont en cours. L'armée israélienne a lancé une offensive au sol à Gazaville aujourd'hui. Il y aurait au moins 30 morts depuis l'aube, selon la défense civile de l'enclave palestinienne. Mais le bilan pourrait augmenter. À Jérusalem, les explications de Michel Paul.
Une nouvelle offensive qui se déroule plus précisément depuis la nuit dernière dans le secteur de Shejaïa, un des plus grands quartiers de Gazaville. Un porte-parole militaire a indiqué dans la matinée qu'Israël a éliminé des combattants du Hamas et détruit des infrastructures, notamment un centre de commandement. Objectif à ce stade, élargir la zone de sécurité qu'Israël entend désormais contrôler dans l'enclave palestinienne. Auparavant, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne avait ordonné l'évacuation de la population civile de l'est de la ville de Gaza après un tir de roquette intercepté en direction du kibboutz frontalier de Nahal Oz. Hier, un bombardement israélien sur une école de Gaza abritant des déplacés a fait 31 morts et des centaines de blessés, selon la défense civile gazaoui sous contrôle du Hamas. L'organisation accuse Israël de viser délibérément des civils innocents. Israël, de son côté, affirme ne pas pouvoir confirmer cette frappe. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et en parallèle de Gaza, je vous le disais, l'armée israélienne a intensifié ses frappes en Syrie et au Liban voisin. Deux membres de la branche armée du Hamas ont été tués lors d'un raid aérien contre un bâtiment à Saïda, une ville du sud du Liban. En Israël, le Premier ministre Netanyahou dans une situation de conflit d'intérêts dans le renvoi du chef du Shin Bet. C'est la conclusion de la procureure générale alors que le gouvernement israélien avait précédemment annoncé limoger le chef de la sécurité intérieure. La procureure parle d'un conflit d'intérêts personnel du Premier ministre en raison des enquêtes criminelles menées par l'ex-chef du Shin Bet concernant ses proches. Les déclarations de Donald Trump constituent un risque important pour les perspectives mondiales. Voilà les propos de la directrice du Fonds monétaire international après les annonces sur les droits de douane du président américain qui affolent les marchés. De son côté, la Chine annonce saisir l'OMC. Pékin va également imposer des droits de douane supplémentaires de 34% sur les produits américains dès le 10 avril. Autre réaction face à cette guerre commerciale, celle du président français Emmanuel Macron qui a présenté hier un plan de riposte à la décision de Donald Trump. Décision qu'il qualifie de brutale, grave et infondée. Et ça passe selon lui par l'unité et la suspension temporaire des investissements européens aux États-Unis. Il a appelé à une première riposte mi-avril avec des réponses sur l'acier et l'aluminium déjà surtaxés par les États-Unis. La deuxième réponse plus massive est prévue à la fin du mois, a-t-il souligné, après une étude par secteur et un travail avec les autres États membres de l'Union européenne. De son côté, Donald Trump a annoncé aujourd'hui qu'il ne reviendrait pas sur les politiques qu'il a lancées. Et sur le sol américain, un autre sujet que les taxes douanières agitent le pays, le patron de la NSA, l'Agence nationale de sécurité, a été limogé par Donald Trump hier pour des raisons encore floues. Et c'est une épuration de plus dans les services de renseignements américains chamboulés depuis deux mois, Juliette Chénion.
Ce limogeage intervient après une réunion entre le président des États-Unis et l'influenceuse complotiste d'extrême droite Laura Loomer, cette dernière ayant suggéré à Donald Trump de se débarrasser d'officiels du ministère de la Défense jugés déloyaux. C'est pour ça que le général Ho a été viré, confirme la militante sur la plateforme X. L'adjointe de Timothy Ho a également été remerciée de la NSA, tout comme au moins 5 responsables du Conseil national de sécurité. Dans la presse américaine, des experts s'alarment du licenciement surprise de Tim Ho, 30 ans de carrière militaire. La NSA, une agence de cyberespionnage parmi les plus puissantes et les plus critiques du gouvernement, joue un rôle essentiel dans la sécurité nationale. Tim Ho perd aussi son poste à la tête de la cyberunité de l'armée, chargée notamment de contrer les ingérences étrangères en ligne comme les usines à trolls russes en 2018. Côté démocrate, c'est l'indignation, réaction du sénateur Mark Warner. Dans un moment où les États-Unis font face à des cyberattaques sans précédent, en quoi le virer pourrait apporter plus de sécurité aux Américains?
Et selon une source officielle du Washington Post, c'est le général Hartman qui prendrait la tête de la NSA. Elle se serait bien passée du soutien de Donald Trump. Cette nuit, le président américain a dénoncé une chasse aux sorcières à l'encontre de Marine Le Pen. Il dénonce notamment sa peine d'inéligibilité après la condamnation immédiate de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens en début de semaine. Libérer Marine Le Pen, voilà ce qu'a écrit en lettres capitales Donald Trump sur son réseau Truth Social. Il dénonce également une guerre juridique menée par la gauche européenne pour museler la liberté d'expression et censurer un adversaire politique. Plus tôt dans la journée, J.D. Vance, le vice-président américain, a pris la parole pour dénoncer une manœuvre afin de l'empêcher de participer à la présidentielle. Ce n'est pas la première fois que le républicain prend position pour la députée, mais du côté du parti d'extrême droite français, le Rassemblement National accueille ses paroles avec retenue, Grégoire Morelli.
Pas de commentaires sur la réaction de Washington. Les élus du Rassemblement National refusent de réagir après les propos du président américain, comme ils l'ont fait après le soutien du premier ministre hongrois Viktor Orban ou encore celui du Kremlin. Car en toile de fond, il y a le rassemblement de dimanche, un rassemblement qu'une partie des oppositions, à droite comme à gauche, dénonce. Xavier Bertrand, par exemple, président LR de la région Hauts-de-France, s'inquiète d'un remake de la prise du Capitole, référence au 6 janvier 2021, où des militants trumpistes avaient pris d'assaut le siège du Congrès américain. Interrogé sur LCI hier soir, Jordan Bardella a écarté toute tentative de coup de force et assure au contraire que le rassemblement de dimanche est un soutien à la démocratie française. À noter d'ailleurs que Marine Le Pen n'a pas de bons souvenirs du premier mandat de Donald Trump. Elle, qui avait fait le déplacement pour rencontrer le républicain début 2017, avait été finalement éconduite par le président élu. Depuis, aucune relation officielle n'a été établie.
Et à noter que les sympathisants du parti d'extrême droite, le Rassemblement National, vont manifester ce dimanche à Paris pour, je cite, dénoncer ce que Marine Le Pen qualifie elle-même de scandale démocratique. Et concernant l'ancien président philippin, Rodrigo Duterte, arrêté début mars par la CPI, la Cour pénale internationale, pour crimes contre l'humanité en rapport avec sa guerre contre la drogue, eh bien, il a transmis aujourd'hui, par le biais de sa fille, un message. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour mon pays », a-t-il déclaré. Sa fille Sara Duterte, vice-présidente des Philippines, a relayé ce message à la presse devant le centre de détention de La Haye, aux Pays-Bas. Les dirigeants de l'Union européenne et des 5 États d'Asie centrale réunis en Ouzbékistan. C'est le 3e sommet Union européenne-Asie centrale depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Au menu, le renforcement des liens politiques et économiques. Les discussions portent principalement sur des enjeux connectivité, sécurité et transition énergétique, alors que l'Union européenne cherche surtout à diversifier ses approvisionnements en minerais essentiels. En 2019, l'Union européenne a adopté une nouvelle stratégie pour l'Asie centrale, plus pragmatique, selon Michael Levistone, doctorant au Centre de Recherche Europe-Eurasie à l'INALCO et cofondateur de l'Observatoire de la Nouvelle-Eurasie.
Ce qu'on observe depuis un petit moment, c'est une volonté à la fois de développer les liens économiques sur tout un tas de secteurs, en même temps de faire preuve d'un petit peu plus de pragmatisme que par le passé, parce que c'est vrai que l'Union européenne était un petit peu donneuse de leçons à expliquer qu'il fallait démocratiser des régimes qui le sont très peu. C'est vrai que l'Asie centrale bénéficie aussi là de deux immenses voisins qui sont infiniment moins regardants sur ces questions-là. En fait, les Russes et les Chinois voient même d'un bon œil le fait d'avoir des pouvoirs autoritaires dans cette région, parce que c'est un gage de stabilité sur le plan politique sur le long terme. Au regard des enjeux économiques, du contexte géopolitique, de l'intérêt mutuel des Européens et des Centra-Asiatiques à travailler ensemble, je pense pas que les Européens vont se focaliser sur de tels points de contention. Je dis pas qu'il faille pas en parler, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres sujets de dialogue et de coopération qui vaillent la peine qu'on les priorise par rapport à d'autres questions sur lesquelles malheureusement un certain nombre de dirigeants centra-asiatiques ne semblent pas prêts à lâcher du lest.
Des propos recueillis par Anastasia Becchio. En Ukraine, une guerre qui se poursuit. 5 personnes ont été tuées et une 30aine d'autres blessées dans des frappes russes de drones sur la ville de Kharkiv dans l'est de l'Ukraine, annonce de responsables ukrainiens dans la nuit. La Russie comme l'Ukraine affirment transmettre à Washington des informations sur la violation par l'autre camp d'un fragile moratoire concernant des frappes sur les installations énergétiques. Un moratoire après des négociations difficiles en Arabie Saoudite sous l'égide des États-Unis. C'était il y a quelques jours. Aucune date d'entrée en vigueur n'avait été indiquée. RFI, il est 17h10 à Paris et on prend la direction du Pont des Arts pour revoir Nathalie Amar.
Merci Juliette Pietraszewski et à tout à l'heure.